Soucieux de vous servir, Radio Okapi met à votre disposition toute une équipe de reporters et de présentateurs. Ils voient ce que vos yeux ont appris à ignorer, s'intéressent à vos problèmes et surtout aux solutions possibles, s'inquiètent de l'absence de suivi et réfléchissent avec vous. Okapi Service, une émission qui vous met au centre des préoccupations, les vôtres, de lundi à vendredi, à partir de 9h, heure de Kinshasa.
Voilà, David Félix Motupai, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, phytotechnicien. Vous êtes également secrétaire général de la SIAC, l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, expert national au programme national DDA, spécialiste en suivi et évaluation de projets. On vous reçoit aujourd'hui en tant qu'ingénieur agronome pour parler de la culture du haricot. On dit souvent que les haricots jouent un rôle important dans l'alimentation humaine comme source d'amidon et des protéines. Vous confirmez cela?
Je confirme, mais avant toute chose, je tiens d'abord à remercier la Radio Okapi et l'opportunité qu'elle nous offre de pouvoir échanger sur cette question importante, surtout en ce moment précis où le gouvernement de la République est en train de s'appeler dans le cadre de 5 chantiers qui s'appellent à l'agriculture, l'agriculture pour pouvoir donner la réponse à la question chronique, au problème chronique de la sous-alimentation, de la malnutrition qui prévalent dans sur l'ensemble du territoire national. Donc, je salue cette opportunité. Je dis oui, les haricots, c'est vraiment l'une des cultures clés. L'une des cultures clés, dans le sens que, sur le plan alimentaire, les haricots, c'est, si vous voulez, nous permettons parfois de l'appeler aussi viande végétale, au même titre que le soja. Je vous informe que de toutes les cultures, le soja, on l'appelle communément viande végétale. Et donc, après le soja, c'est les haricots. Dans le sens que les haricots est la source, donc disons la deuxième source de protéines végétales après le soja.
Après le soja.
Après le soja. Donc, quand nous mangeons chaque jour, nous avons besoin de protéines. Les protéines, elles sont d'origine animale, soit qu'elles viennent de la viande, des œufs ou du lait ou du poisson. Mais pour la part des protéines végétales, les haricots est l'une de recettes importantes dans notre alimentation.
Et pourquoi c'est beaucoup plus la recette qui dure et beaucoup plus pratiquée à l'est du pays?
Non, elle n'est pas seulement pratiquée à l'est du pays.
Sur l'ensemble, mais c'est beaucoup plus, je dis beaucoup plus.
Non, je vais aider nos auditeurs à cerner la compréhension de ce qu'on appelle les haricots. Sur le plan botanique, c'est toute une grande famille de ce qu'on appelle les légumineuses. Et parmi les légumineuses, il y a les haricots, il y a l'arachide, il y a le soja, il y a le wanzu, ce qu'on appelle autrement les pistaches. Donc, de toutes ces cultures-là, ce qu'on appelle communément les haricots, là, dans nos langues, dans les langues officielles, on appelle madesu. Madesu, c'est l'appellation du haricot dans l'expression swahili, ou généralement les lingala. Mais quand vous allez en Suruba ou en Kikongo, on parle de kunde, ou bien on parle de mbwengi. Tout ça, c'est les haricots. C'est les haricots. Alors,
Le mbwengi,
c'est le tout petit.
Oui.
Alors, maintenant, souvent, on pense que les haricots, c'est seulement les madesu. Non. Les haricots, c'est qu'ils cultivent sur l'ensemble du territoire.
Donc, il y a plusieurs variétés.
Il y a plusieurs variétés. Sauf que la variété que nous appelons en termes techniques Phaseolus vulgaris, qui est le madesu, il n'est pas seulement cultivé à l'est du pays, notamment dans la province orientale, le nord et le sud du Kivu. Non, on le retrouve aussi au Bas-Congo. Parce que quand vous allez sur le marché à Kinshasa, vous allez trouver les haricots blancs. On appelle aussi ça
probablement les madesu atembe.
Madesu atembe. Madesu atembe. Et quand vous voyez le mbwengi ou les haricots, les kundes du Kasai, bon, c'est vrai que sur le plan botanique, ça, les petits là, on les appelle le groupe Vigna.
Vigna. Et le niébé. Le niébé, c'est également une variété de madesu.
Oui, c'est une sœur. C'est une culture serre aux haricots. Donc c'est pour ça en termes techniques on appelle ça les petits là, on les appelle les guignas.
Oui.
Tandis que les grands, c'est lui qu'on appelle communément les haricots, ça c'est les phasolus.
Oui.
Mais c'est la même plante et sur le plan botanique, ce sont des sous-espèces dans les grands groupes de légumineuses.
Alors pour celui qui veut se lancer dans la culture, qu'est-ce qu'il doit, par où commencer?
Par où commencer quand on veut faire l'exploitation, que ce soit du haricot, que ce soit du maïs ou les manioc, donc il y a des préalables. Il y a des préalables sur le plan technique, il y a des préalables sur le plan économique, il y a des préalables sur le plan écologique. Qu'il s'agisse de, bon, parce que nous parlons du haricot, le préalable c'est d'abord la connaissance du milieu écologique où les haricots peuvent bien évoluer. Donc ça veut dire c'est connaître le climat, c'est connaître le sol qui s'accommode avec la culture des haricots. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est connaître les conditions, les paramètres techniques, c'est quelles sont les techniques qu'il faille connaître pour pouvoir bien pratiquer et pratiquer de façon rentable. Parce que tout le monde cultive. Comme on disait quand j'étais jeune, on pense que le métier de l'agronome, tout le monde peut faire ça, parce qu'on sait que vous pouvez prendre une graine et jeter, et ça pousse, et puis vous venez récolter. On pense que non, mais si quelqu'un veut faire l'exploitation, il veut faire la culture des haricots, comme dans le nord, comme dans le sud, ou à travers les territoires nationaux, il faut qu'il réunisse un certain nombre de facteurs. Notamment, j'ai parlé de paramètres écologiques, là, ça demande d'aller choisir un site dans un milieu où les climats, c'est-à-dire la lumière, l'insolation, la pluviosité, les précipitations, où le sol s'accommode avec la culture. Deuxième paramètre, il faut maîtriser les techniques.
Et tout ça, on peut faire ça.
On peut faire
le sol, la qualité du sol permet de cultiver les haricots.
Oui, mais en y apportant les techniques culturelles adaptées. Vous voulez que je fasse une petite démonstration?
Oui, allez droit au but.
Donc vous voyez quand quelqu'un décide de pratiquer une culture dans un milieu où les conditions naturelles ne permettent pas, par exemple à Kinshasa, il veut faire le mwenge et que ce n'est pas adapté naturellement, donc il y a des techniques culturelles qui permettent de pratiquer cette culture-là. Notamment, la technique de la pratique, par exemple, des serres. Aujourd'hui, on parle de gaz à effet de serre. Les serres, c'est-à-dire, c'est un aménagement fait par les agronomes qui permettent de cultiver une culture dans un milieu où il n'est pas nécessairement adapté. Donc, la culture des haricots peut être pratiquée sur l'ensemble du territoire.
Admettons qu'on est à Kisangani, par exemple. On suppose que c'est la terre est adaptée
là, la terre est très bien adaptée là-bas, que ce soit en Corée ou en savane. D'abord, les haricots, c'est une culture qui se pratique aussi bien en savane qu'en Corée. Donc, ça ne pose vraiment pas de problème.
Il faut avoir d'abord la semence.
Il faut avoir la semence. La semence est de bonne qualité, parce que tous ceux qui s'évertuent à faire cette culture-là, ils ne le font pas avec la bonne semence. À ce moment-là, la récolte est faible.
Vous trouvez la bonne semence, Inera?
La semence existe. Nous avons, aujourd'hui, nous avons le service national des semences. C'est un service spécialisé du ministère de l'Agriculture qui s'occupe de la question de la semence, mais en s'appuyant également sur l'INERA. L'INERA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. Oui, ce sont des institutions de l'État qui s'occupent de la question de la semence.
Donc on peut trouver les semences partout à
travers le pays. Trouver la semence partout, quand on dit partout, non. Il faut s'adresser aux stations du Sénacerm, de l'INERA. C'est là que vous pouvez trouver de la semence de la qualité.
Alors vous avez votre semence, vous préparez la terre et puis vous placez la semence dans la terre.
Oui. Oui.
C'était juste pour.
Ouais, tout à fait.
Pour vous laisser parler.
En fait, quand vous avez la semence, parce que la semence, vous avez de la semence.
Oui.
Vous savez, les haricots, d'abord, c'est une culture aussi qui est très sensible aux maladies et aux insectes. Donc, ça pose problème de santé végétale. Donc, quand vous avez la semence de qualité, il faut rechercher aussi à disposer d'un peu d'insectes, de pesticides, soit un insecticide, soit un fongicide qui permet de lutter contre les champignons. Et quand vous avez le pesticide, il faut aussi faire un effort. Parce que quand vous voulez rentabiliser votre exploitation, dans certains milieux, si les sols sont pauvres, il faut apporter un peu de fumier, il faut faire un peu de fertilisation. Mmh. Donc ça peut vous nécessiter de recourir à de l'engrais. Il faut du personnel. Il faut du personnel, il faut non seulement la main d'œuvre agricole qui va s'atteler, mais il faut recourir aux compétences techniques qui existent dans ce pays. Les agronomes, nous sommes classifiés, nous sommes stratifiés à 3 ou 4 niveaux. Les moniteurs agricoles, les techniciens agronomes, les diplômés d'État, il y a des techniciens A1, et puis il y a des ingénieurs agronomes. Donc, quand vous voulez faire l'exploitation, il faut recourir, il faut une ressource humaine.
Combien de temps pour moissonner?
En fait, il existe des variétés. Nous distinguons les variétés précoces. En fait, les variétés précoces des haricots, ça joue entre 60 et 75 jours. Donc, dans 60, deux mois et quelques semaines,
oui,
on s'est récolté. Mais il y a des variétés aussi tardives qui vous prennent jusqu'à 120 jours. C'est-à-dire qu'il faut compter plus de 2 mois, jusqu'à 3 mois
jusqu'à
pour récolter.
Mois,
oui. Donc là, ça dépend de la récolte. Et c'est lui aussi qui veut récolter. Il tient compte des capacités de la variété.
Mm-hmm.
Donc, il y a des variétés. C'est une variété tardive, mais elle a un grand rendement. Donc, ça, c'est votre choix. Sauf que vous tablez sur une variété qui a un faible rendement, mais qui prend un peu de temps. Là, c'est l'économie de ceux qui intervient.
Ingénieur Babi, Félix, vous savez, dans cette émission, les auditeurs vous suivent de partout à travers le pays. Ils vous appellent aussi pour poser des questions. Ils ont des préoccupations. On va les retrouver tout à l'heure, juste après ceci.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Carnet.
John Peter nous appelle depuis Siro. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'ai une seule question à poser à l'ingénieur.
Oui.
À ce moment où nous vivons le réchauffement climatique, est-ce que le respect du calendrier agricole est-il encore une réalité ou bien un mythe? Parce que moi, je suis un grand agriculteur. Mais ces derniers temps, j'échoue. À chaque fois que je tente de semer les haricots, la pluie vient de façon intempestive et ça détruit tout. Même si c'est à la saison A. Alors est-ce que vraiment il y a un nouveau calendrier agricole adapté au réchauffement climatique? C'est ça qui est ma préoccupation.
Merci, John Peter. Est-ce qu'il y a un nouveau calendrier adapté? Je pense que c'est ça votre attente. C'est ça la réponse pour vous. Et pour le moment, je peux dire, depuis l'intervention de changement climatique de la dernière décennie ici, il faut dire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, les techniciens sont à pied d'œuvre pour essayer de recentrer. Mais quand cela ne tient, le plus important, c'est que vous soyez en étroite collaboration avec les techniciens qui sont sur le terrain. Je pense au niveau des CIRO, on doit avoir des agronomes, on doit avoir des ingénieurs, on doit avoir des experts en climatologie, les services de météorologie, qui sont capables de vous donner une information de proximité.
Mais en saison de pluie, qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, écoutez, c'est ça que je dis. Je dis, le problème se pose comme ça se pose chez John Peter. Donc, le plus important, c'est qu'il faut qu'il aille vers les techniciens, par exemple, les agronomes, avec les responsables de météo, ils savent prendre les données actualisées des derniers trimestres ou de la dernière année, et on essaie de faire des projections et leur donner les informations qui leur permettent qu'il ne faut pas. Vous voyez, aujourd'hui, le cas d'espèce, c'est que nous venons d'avoir l'éclipse solaire.
Mmh.
Ça veut dire que ce sont les gens de la méthode de la climatologie.
Les gens étaient déçus. Hein.
Non, les experts de la climatologie ont fait des prévisions, des projections, et ils ont donné l'information.
Ouais.
Donc, ça, c'est valable aussi pour M. Dion, qui est M. Dion Peter, qui est sur le terrain. Vous avez besoin d'être en contact avec les techniciens qui savent vous donner une information projetée, et ça vous permet de recentrer les travaux ou votre plan des cultures.
Donc la pluie détruit la culture.
Non, la pluie détruit au fait quand il y a un excès, parce que l'excès nuit au niveau des cultures, que ce soit les déficits ou l'excès, ça pose problème.
Mmh.
Donc dans le cas de John Peter, je pense que s'il y a eu trop de pluie, ou soit il a semé trop tôt, ou il a semé tard, ou il y a eu trop de pluie, ça pose problème sur le plan de rendement. Mais c'est pour ça que je pensais à Guillaume de consulter le technicien pour avoir l'information qui permet de se comporter en conséquence.
Blanchard est en ligne depuis Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Oui, je voudrais poser la question à l'invité de savoir si il serait déconseillé d'arroser quotidiennement les haricots déjà cultivés. Voilà.
Merci Blanchard. Arroser d'abord quotidiennement, c'est pas une bonne pratique. Ça dépend. Les haricots, c'est pas une culture maraîchère de toutes les façons. Sauf que si vous pratiquez l'haricot vert. L'haricot vert, là, c'est un légume qui se cultive dans les jardins. Mais si c'est les madès qui se cultivent aussi, la culture annuelle. Non, moi, je ne vous vois pas en train d'aller arroser chaque jour. Le fait même d'arroser chaque jour, ça pose problème pour les haricots parce que les haricots est très sensible à l'attaque des mouches. Donc, quand il y a trop d'humidité, quand vous arrosez trop, vous augmentez l'humidité et vous accroissez la prévalence des mouches qui dérangent beaucoup la culture des haricots. Donc, je ne conseille pas que vous, à moins que ce soit les haricots verts. Si c'est les haricots verts, oui, vous les cultivez comme on arrose chaque jour les épinards. Mais vous ne pouvez pas arroser, même si il est établi qu'il y a une sécheresse de ce côté-là, mais vous n'allez pas arroser chaque jour.
Mais il faut arroser à quel rythme, à quelle fréquence?
Intervalle. Donc si on arrose le matin, ça veut dire que c'est suffisamment. Ça peut couvrir les besoins d'une
toute la journée.
Ça peut couvrir les besoins d'une journée et il faut, quand vous venez le matin, vous essayez de toucher le sol à 5 cm pour réaliser s'il y a encore une humidité qui permette de couvrir les besoins de la culture. Donc vous ne pouvez pas être en train d'arroser chaque jour comme c'était les légumes dans les jardins. Non, là, je ne peux pas conseiller ça à Blanchard. Il faut qu'il respecte, il faut qu'il tienne compte du problème de l'humidité parce que ça dérange la. Je dis que ça augmente l'attaque de la mouche.
Ouais, la mouche. Donc les haricots sont beaucoup attaqués par les mouches.
Pas les mouches, la mouche c'est l'un des insectes nuisibles, les prédateurs de la culture des haricots.
Mais comment protéger
les punaises, par exemple.
Les punaises aussi attaquent beaucoup.
Il y a des punaises, ce ne sont pas des punaises de Delhi, non, ça c'est la punaise dans la nature.
Il y a même certains haricots qui sont troués par des insectes qui les
rongent. Ça c'est les charançons. Oui. Les charançons, ça c'est déjà au niveau des magasins. Ça c'est au niveau du stockage, la conservation, le stockage. Ça aussi c'est. Il faut être accompagné. Il faut toujours consulter les agronomes, il faut consulter les techniciens pour qu'ils vous disent ce que vous devez faire. Même si vous ne pouvez pas acheter l'insecticide de la ville, mais les cendres au village, il y a toute une série de
faits. Et puis, l'ingénieur l'a dit, parfois dans la préparation, à un moment, on met les haricots au feu, et ça prend plus d'une heure, ça prend du temps. Et certains disent, oh, ma belle, son attaque, si ça dure trop longtemps. Mais qu'est-ce qui explique ça?
Bon,
la cuisson, quel est le temps de la cuisson, les haricots?
Écoutez, il existait une agence ici qui enseignait au moment BESIC.
Oui.
C'est une agence américaine qui enseignait le moment dans les zones de santé, le temps minimum qu'il faille préparer un légume. Par exemple, en son temps-là, on enseignait au moment comment elle peut préparer dans 45 minutes le pondo. C'est valable aussi pour les haricots. Donc, vous voyez, souvent, c'est quand les haricots a beaucoup traîné dans les magasins, je pense que ça se durcit. Mais le problème, c'est que souvent, on préfère toujours prendre directement les haricots, les mettre au même moment, le temps que l'eau prenne d'abord, prenne les diminutions. Donc, tout ça, c'est compté. Mais si l'eau avait déjà procédé, l'eau a été déjà portée à ébullition et que vous venez apporter le madès, je pense que en même temps, si le madès avait aussi traîné un peu dans de l'eau tiède ou de l'eau fraîche, donc ça peut diminuer. Et en plus, le fait de laisser trop traîner le repas au feu, ça perd les qualités organoleptiques et puis ça détruit même certaines vitamines. De sorte qu'à la fin, au finish, on a un repas qui ne nourrit pas. Ça aussi, c'est un problème.
Mais la maman vous dit, il faut une mettre la moto pour les mamans bien.
Non, les mamans ont besoin aussi d'être enseignées par rapport à cette question-là. La plupart des repas que nous mangeons, bon, c'est un repas, mais il n'apporte pas, il ne nourrit pas. Donc, il y a un minimum de temps qui est requis mais il y a des techniques qui permettent aussi de préparer un aliment et de lui conserver les qualités organoleptiques, non seulement de goût, mais aussi les protéines sont perdues, les vitamines, et à la fin, c'est un repas juste pour donner de l'énergie et de la
conserver. Alors, ingénieur Dadi, alors après la récolte, comment conserver le maïs pour éviter justement que tout cela n'arrive?
Ben voilà, je le disais un peu plus tôt là, il y a deux choses. Soit nous sommes en ville où il y a des infrastructures de stockage, les infrastructures de stockage, c'est notamment les cribs, c'est-à-dire les greniers modernes qui sont faits en treillis, qui ont un pavé bien aménagé, qui avec des climats, des conditions même des climatiseurs, pas les climatiseurs, mais l'aération, les conditions de lumière sont très respectées, parce que là les agrumes sont derrière en train de suivre. Mais au village, il existe aussi des techniques de conservation. J'étais en train de donner l'exemple du cendre, par exemple, du cendre. Les cendres là, quand on a brûlé, quand on a brûlé le carbone, il reste les cendres. Les cendres là, ça c'est un produit qui permet de conserver. Ça c'est les produits en termes de produits, mais il y a aussi les vases. Les vases. Je connais dans certains milieux, dans les bandes de Kassai où j'ai vécu, parfois on utilise les calebasses pour conserver par exemple la semence. On essaie d'enrober ça dans un produit, dans une poudre, on prend cette feuille, ou on prend les cendres, on mélange, on conserve ça dans les calebasses.
Avant de conserver, il faut sécher le maïs.
Il faut sécher. Et là, j'en profite pour préciser que la plupart des paysans, ils perdent la récolte à cause du mauvais séchage. Le séchage, en fait, c'est porter l'humidité dans le maïs. Une humidité autour de 12%, de sorte que vous pouvez le conserver. Mais quand vous gardez les maïs avec une humidité qui dépasse les 12%, généralement les paysans perdent souvent. Donc là, c'est rapidement un conseil technique pour dire il faut bien sécher votre haricot. Il faut vous assurer que le taux d'humidité qui est dans les haricots peut vous permettre de le conserver même pendant une année ou au-delà d'une année. Donc ça, c'est vraiment une question critique. Et ça fait beaucoup de peine, ça fait beaucoup de pertes. On a récolté convenablement, mais quand on va stocker, on a mal stocké. Et je disais qu'on peut stocker ça dans le tout en plastique, le tout en plastique, il y en a, même au village on en trouve aussi. On peut aussi fabriquer des vannes, on peut fabriquer des trucs en pot, un pot d'argile, mais tout ça c'est en fait pour permettre de conserver votre semence jusqu'à la période. Si c'est une semence, bon, si c'est les maïs destinés à la consommation, ça prendra le temps que ça prendra.
Ça peut être consommé aussi directement après la récolte.
Non. Récolte sans être préparé ou qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, avant d'être séché.
Non, les haricots ne peuvent pas se manger comme la racine. Les haricots ne peuvent pas se manger comme la racine parce que la racine, dès qu'on l'a retirée du sol, même au sol, là, vous pouvez commencer à les manger. En fait, il y a un problème dans les haricots, comme dans les soja, il y a une substance chimique, un glycoside cyanogénétique, un peu qui est proche de. En fait, les produits qui posent des problèmes de digestion. Quand vous avalez les maïs crus, vous avalez cette substance-là qui va engendrer des dysenteries, qui peut engendrer des problèmes très
longs. Pas cru, donc après la récolte directement, la maman va préparer.
Ah, tout à fait. Les haricots peuvent être consommés frais, en état vert, comme nous consommons aussi le maïs, même avant qu'il soit mûr, on peut le consommer, mais les haricots, on le consomme. Quand vous allez au Kassai, vous allez trouver, avant qu'il soit sec, on récolte les haricots, il est encore vert, et on les mange à cet état-là. Donc, qu'il soit à l'état vert ou qu'il soit mûr.
Le pétine qui est très délicieux, là.
Très délicieux. Surtout les haricots kundes, les vignes, il faut le goûter. C'est plein au marché du Lida. Ça, il faut essayer parce que souvent, les gens sont habitués au maïs, mais ils négligent les vignes et les culottes. Ça, c'est.
Les kundes.
Les kundes. Tout petit, là. Les tout petits, il faut essayer ça. Vous ne serez pas déçu.
Voilà, vous ne serez pas déçu, il faut l'essayer. Merci beaucoup, ingénieur Dadi Félix Moutoufaï. Donc, vous avez dit, si on peut récapituler, la culture du maïs, ça prend 3, ça peut prendre 2 à 3 mois.
Selon la variété. que vous avez choisi. Il y a des variétés précoces, il y a des variétés tardives.
Et puis ça a des couleurs différentes. Vous trouvez les nomades ouverts avec beaucoup de pembe et trop de couleurs.
Ça aussi, les conseils qu'on peut donner aux gens, la couleur ne change pas. C'est un problème de goût, quoi. Là, c'est non, moi j'aime le vert, j'aime le bleu. Non, c'est pas que le noir ou le blanc ou le jaune. Il est plus délicieux ou il est plus riche en protéines. Non, c'est la couleur, ça procède de la volonté de Dieu de nous présenter un aliment qui peut être diversifié. Donc la couleur du haricot, ça ne doit pas être un problème sur le plan alimentaire.
Ingénieur Dadi Félix, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais pour ceux-là qui veulent vous joindre après l'émission, un numéro de téléphone.
Notre numéro, c'est le 081 186 75 92. Et le secteur, c'est c'est 0-99-99-81-124.
Voilà, ce sont là les deux numéros. Ouais. Ceux-là qui veulent vous joindre, 081-186-75-92, 0-89-81-124. Oui, allez.
Je voulais profiter de l'occasion que vous nous montrez de faire un appel à la mobilisation des agronomes. Le chef de l'État, a, dans le cadre des 5 chantiers, à placer aujourd'hui l'agriculture au centre de son programme. J'invite tous les agronomes à se mobiliser, notamment les ingénieurs agronomes qui sont organisés au sein de la SIAC, les ingénieurs techniciens qui sont organisés au sein de la CITAC, l'Union congolaise des agronomes, de se mobiliser, de se mettre ensemble et de pouvoir développer des réflexions et de proposer des solutions alternatives. Le chef de l'État a besoin de conseils pratiques, il a besoin des idées fortes qui permettent à l'agriculture d'être une réponse dans le cadre des 5 chantiers. Là, je demande vraiment à tous les agronomes, surtout, il y a une grande majorité dans la fonction publique, mais il y en a aussi qui sont évadés dans le secteur public et même qui sont dans le chômage, de se mettre ensemble, de venir au siège de la SIAC, qui se trouve sur la rue Bolia, à Matongé, et c'est le cadre idéal pour la réflexion. Les espoirs conjugués des agronomes.
Merci beaucoup, ingénieur Dadi Mouchipaï, et bon début de semaine.
Merci.